voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour, le temps des élections présidentielles, législatives, régionales, municipales nous fournissent au moins l'heureux prétexte de nous remémorer comment les académiciens ont utilisé ce mot « élection » dans leurs ouvrages. La sélection que nous avons opérée a été rendue possible en feuilletant le livre de Jean Pruvot « Les élections » paru dans la collection « Champion les mots » aux éditions Honoré Champion, livre qui explore le mot « élection » et ceux de la même famille dans les dictionnaires au fil des siècles. Alors commençons, si vous le voulez bien, par les élections à l'Académie française 100 ans. Maurice Druon, élu en 1966 à l'Académie française au siège précédemment occupé par Georges Duhamel et qui nous a quittés en 2009, auquel a succédé récemment Daniel Salnave, dans son ouvrage « Les grandes familles » paru en 1948, parle de ces élections à l'Académie.
12 voix pour une première fois, c'est très bien, vous savez. La prochaine fois, vous aurez une élection de maréchal.
C'est-à-dire une élection acquise d'avance, obtenue à la quasi-unanimité compte tenu de la notoriété du candidat. Et toujours dans cet ouvrage, il rédige le dialogue suivant.
Ça doit être terriblement émouvant, mon cher maître, l'attente des résultats, dit Inès Sandoval, la poétesse. Moi, chère madame, le jour de mon élection, j'étais comme un fou, dit l'historien qui s'empiffrait de gâteaux secs.
Dans un autre registre, Ernest Renan, 1823-1892, éminent connaisseur de la langue sémite et découvreur de Byblos au Liban en 1860, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à partir de 1856 et de l'Académie française en 1878, succédant ainsi à Claude Bernard, parle, lui, aux surprises, d'élection amoureuse. On trouve cette expression dans « Les feuilles détachées ».
L'élection amoureuse est comme l'élection divine, tout à fait gratuite. Elle ignore ses propres motifs.
Il faut donc entendre là le mot élection dans le sens d'un choix. Mais même si nul ne sait et nul ne peut expliquer pourquoi et comment s'opère ce choix, reste que Renan n'était guère favorable aux élections, au vote, et il affirme dans « La réforme intellectuelle et morale de la France » en 1871 « L'élection encourage le charlatanisme. Voilà qui est dit. François Mauriac, lui, élu à l'Académie française en 1933, au siège précédemment occupé par Eugène Brieux, s'il se distinguait par son immense talent, ne brillait pas par sa modestie. Il le reconnaît lui-même, et cela dès sa jeunesse, approuve cet aveu dans « Les écrits intimes », commencement d'une vie paru en 1932.
« Me persuadant de ma supériorité intellectuelle, je me scandalisais de ce que mes maîtres ne semblaient pas distinguer en moi un vase d'élection. »
Que faut-il donc entendre par « vase d'élection » ? Non pas un objet, loin s'en faut, mais une créature, une personne choisie par Dieu, dotée de la grâce divine pour accomplir ses desseins. Le même Mauriac parlera du peuple juif, peuple d'Israël, en le qualifiant, comme bien d'autres, de « peuple d'élection », et l'expression se trouve dans son célèbre roman « Le nœud de vipère ». George Sand, elle, n'a jamais été élue au sein d'une académie. À l'époque, cela n'était pas concevable. Mais André Mauroy, qui lui était de l'Académie française, élu en 1938 à la suite de René Doumic, et qui a mis son immense talent au service de plusieurs grandes biographies qui restent des chefs-d'œuvre du genre, en a consacré une à la femme écrivain sous le titre de « L'Elia ou la vie de George Sand » et il écrit
« Ce qu'elle demandait pour les femmes, ce n'était pas le droit de suffrage et d'élection. » C'était l'égalité civile et l'égalité sentimentale. Elle pensait que la servitude où l'homme tient la femme détruit le bonheur du couple qui n'est possible que dans la liberté.
S'il en est un qui se penchait largement sur le genre humain, mais ne se faisait guère d'illusions sur le mode électif, c'est bien l'auteur des « Hommes de bonne volonté », paru en 1946, Jules Romain, membre de l'Académie française, à partir de la même année, auquel succédera Jean d'Ormesson. On y trouve ce constat presque désappointé.
Quand les urnes circuleront, ils resteront presque tous fidèles à leur parti pris antérieur ou à une discipline de groupe.
Georges Clemenceau, surnommé le Tigre, élu à l'Académie française en 1918, au siège précédemment occupé par Émile Faguet, n'est guère plus optimiste. Et dans Iniquité, paru en 1899, il écrit
« À leurs dépens, quelques jours, électeurs et élus apprendront que ces honteuses défaillances s'expient. »
Et dans ce même esprit, il ajoute
« Un candidat, un chef de candidat, peut affronter l'armée, l'église, la magistrature, braver la mort au besoin, mais il a pour premier principe de se soumettre à la foule au lieu de tenter de la vaincre. »
Mauriac, encore lui, dans son fameux bloc-notes publié entre 1952 et 1957, fait d'ailleurs allusion à une phrase de Clemenceau.
« Je vote pour le plus bête. La boutade fameuse de Clemenceau n'est cruelle qu'en apparence. Elle signifiait « je vote pour le plus inoffensif ».
Force nous est de constater qu'au cours de notre recherche de citations académiques, on en trouve plus de pessimistes que d'optimistes. Claudel, par exemple, membre de l'Académie française, sur les dernières années de sa vie de diplomate-écrivain, il est élu en 1946 à presque 80 ans, au siège qu'occupera par la suite Vladimir d'Ormesson. Claudel écrit donc dans son journal
« Les élections sont l'abdication rabâchée tous les 4 ans par un peuple gâteux. »
Et Jean Dutour, sous son humour corrosif qui faisait la joie de ses milliers de lecteurs, Jean Dutour qui siégeait à l'Académie française depuis 1978 à la suite de Jacques Rueff et qui nous a quittés en 2011, a lui aussi la dent dure.
« Le peuple, en élisant ses représentants et ses maîtres, leur délègue une fonction éminente, celle de se salir les mains à sa place. »
Essayons encore un peu, dans l'espoir de trouver quelques phrases, quelques citations plus optimistes, plus réconfortantes, est-ce possible? Et si l'on regardait du côté de Marcel Pagnol, par exemple, dont on connaît le style alerte, les réparties, les dialogues incisifs? Marcel Pagnol, élu à l'Académie française en 1946, au siège précédemment occupé par Maurice Donnet, semble lui aussi désabusé. Les élections ne seraient-elles qu'une affaire de troc, de marchandage? Il semble le penser lorsqu'il fait dire à l'un des personnages de Topaz.
« Si le maire a voté pour moi les balayeuses aux automobiles, c'est parce que j'ai voté pour lui l'affaire des urinoirs souterrains. »
D'autres académiciens, historiens, ceux-là, ont évoqué divers moments de l'histoire de France où le mode électif joua un rôle particulier. Ainsi, Jules Michelet, de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1838, publie une « Histoire de la Révolution française » en réaction aux événements révolutionnaires de 1848. Il y fustige, dans un enthousiasme excessif et des envolées pittoresques, les débordements du peuple, tout en revendiquant une démocratie fille de la Révolution et en se félicitant du bon déroulement des élections séparant la chute de Louis-Philippe de l'avènement de Napoléon III. Et ainsi, il écrit
« La cour fut étonnée de la décision, de la fermeté, de la suite avec laquelle procédèrent 25 000 électeurs primaires, si neufs dans la vie politique. Il n'y eut aucun désordre. »
Tandis que Jacques Bainville, élu à l'Académie française en 1935, au fauteuil précédemment occupé par Raymond Poincaré, dans son Histoire de France, évoque Gambetta, 1838-1882, président du Conseil en 1881. Gambetta passait de défenseur de la guerre à outrance sous la Commune à partisan d'un exécutif fort sous la Troisième République.
Gambetta craignait des élections qui pouvaient être à la fois hostiles à la République et favorables à la paix. On prit donc le parti de les ajourner.
Heureusement, nous avons Chateaubriand, lui qui eut quelques démêlés avec, non pas l'Académie française, où il fut élu en 1811 au siège qu'occupera par la suite Paul de Noailles, mais avec le maître régnant Napoléon Bonaparte, désormais empereur depuis 1804, au point que Chateaubriand ne put prononcer son discours sous la coupole, et il admet cependant que le droit de voter est l'une des conquêtes de la Révolution. Il énumère ainsi ses conquêtes dans « Mémoire d'outre-tombe » paru en 1848.
Les conquêtes de la Révolution, à savoir la liberté politique, la liberté et la publicité de la pensée, le nivellement des rangs, l'admission à tous les emplois, l'égalité de tous devant la loi, l'élection et la souveraineté populaire.
Nous voilà rassurés et formons un vœu, un seul, que Canal Académie reste votre radio d'élection. Et rappelons que les citations de cette émission étaient lues par Fernand Guillot, qui s'est même amusé à prendre la voix de quelques académiciens que vous aurez reconnus, et quelles sont ces citations extraites de l'ouvrage de Jean Pruvost, « Les élections », paru chez Honoré Champion.